Bonjour à toutes et à tous, René Lavergne avec vous à l'antenne de Radio Campus en 6,6 FM pour chaque mercredi du mois, notre rendez-vous avec l'Université de Lille. Eh bien, aujourd'hui, donc, un grand plaisir de retrouver Véronique Level, qui est donc responsable des relations internationales de l'Université Lille Sciences et Technologies. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Et tous mes meilleurs vœux.
Merci, bonne année à vous également.
Alors, on est venu aujourd'hui parler d'un sujet très particulier, puisqu'il s'agit des relations internationales, mais aussi de la mobilité des étudiants, avec tous ces jeunes qui ont envie, ou pas forcément encore envie, mais on va leur donner envie d'aller visiter le monde et d'en revenir enrichi intellectuellement, psychologiquement et peut-être d'autres formes d'enrichissement. On va parler de tout cela avec les invités qui sont... Alors, je vais donner les noms et après, ils interviendront tout à l'heure à l'antenne. Il y aura Simon, Pierre et Antoine. Tout d'abord, Véronique Level, l'importance pour une université d'engager ses étudiants à la mobilité, d'aller voir aussi ailleurs comment se font, sinon les cours ou la recherche, aussi comprendre un environnement extérieur. En quoi peut-il servir un étudiant qui vient en France avant ou ensuite?
Alors, l'internationalisation des établissements a commencé il y a déjà quelques années et la mobilité étudiante, c'est le volet le plus important. Donc, c'est à la fois la mobilité sortante, donc envoyer nos étudiants à l'étranger dans des partenariats afin de leur permettre de suivre un semestre ou une année d'études dans un pays partenaire, ou accueillir des étudiants sur nos campus pour enrichir aussi nos équipes de l'expérience de l'étranger.
Donc ici on a trois étudiants, ils interviendront tout à l'heure, mais est-ce que ce qu'ils vont découvrir à l'étranger en termes d'études, ça va être pour eux très différent? Est-ce qu'ils doivent s'y préparer ou non?
On considère qu'il faut une année pour préparer son projet de mobilité, donc c'est aussi se préparer mentalement, parce qu'il faut se dire qu'on va partir une année, voire un semestre loin de chez soi. C'est aussi préparer administrativement les dossiers, les différentes démarches. Pour le programme Erasmus en Europe, c'est assez facile, mais si c'est des mobilités hors Europe, c'est un petit peu compliqué. Il y a la question des visas, des autorisations de travail qui peut se poser pour les stages, par exemple. C'est aussi préparer à des nouvelles pratiques pédagogiques, parce qu'on n'enseigne pas de la même manière dans tous les pays du monde, et c'est aussi une expérience importante. Donc oui, il faut se préparer, même si on sait que parfois les étudiants décident de partir parfois 2 mois avant le départ. On le sait, mais il faut se préparer mentalement à avoir un choc aussi parfois interculturel, même si quand on est jeune, c'est forcément moins important que pour des adultes. Mais ça se prépare, une mobilité, si on veut la réussir.
Est-ce qu'il y a des pays plus à risque que d'autres, et est-ce que vous essayez d'éviter justement ces risques?
On évite effectivement d'envoyer nos étudiants dans les pays à risque. On suit les recommandations du ministère des Affaires étrangères, donc interdiction de partir dans les zones orange et rouge, puisque c'est trop dangereux. Les étudiants partent essentiellement en Europe, avec le programme Erasmus. Et dans les pays hors Europe, ça va plutôt être aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Chine, en Amérique latine, dans certains pays d'Afrique comme l'Afrique du Sud, donc des pays où il n'y a pas de risque pour leur sécurité.
Alors, dans certains pays, il y a des lois en vigueur qui sont un peu différentes ou des principes de fonctionnement. Est-ce qu'il y a interculturellement une certaine approche qui est déjà faite si on part en Chine ou ailleurs?
Alors, on prépare nos étudiants à l'interculturel grâce à la mise en place de sessions de communication interculturelle qui sont mises en place dans le cadre du label international. Donc, il est possible pour les étudiants de suivre cette session avant le départ, mais aussi après. Donc, ça leur permet d'avoir aussi un peu une appréhension de la culture de l'autre qui leur évitera peut-être de faire des erreurs quand ils arriveront dans le pays. Mais parfois, c'est bien aussi de faire des erreurs pour se rendre compte qu'il y a des différences culturelles et interculturelles.
Alors, pour ces étudiants qui se préparent à partir, est-ce qu'ils doivent préparer également un budget? Comment ça se passe?
Alors, on les informe du coût d'une mobilité, du coût de la vie sur place. Donc, ça dépend des pays. Le niveau de vie est plus élevé, par exemple, en Grande-Bretagne qu'en Espagne. On a des bourses de mobilité, donc qui permettent d'aider à financer ce qu'on appelle le surcoût de la mobilité. C'est-à-dire que ça ne finance pas la mobilité complètement, mais le surcoût qui est lié à cette mobilité. Et effectivement, on les prévient qu'il va y avoir un impact financier. Une mobilité, ça représente un budget. Et il faut le prendre en compte pour pas se retrouver dans des situations financières compliquées.
Voilà, donc dans quelques instants, ces étudiants pourront peut-être nous faire un bilan du retour sur investissement, pourquoi pas, de cet investissement financier.
Après, on voit des étudiants qui préparent leur mobilité en travaillant l'été, par exemple, en ayant un petit job, parce qu'ils ont le projet en tête déjà depuis quelques temps.
Est-ce qu'il est possible, là le temps est peut-être court hein, là-bas, de travailler sur place?
Oui, si la législation locale le permet, oui. Mm-hmm. Comme en France, on peut embaucher chez des étudiants internationaux. D'accord. Dans la limite d'un certain nombre d'heures.
Et donc là, vous disiez, Véronique Level, que la durée de départ de ces étudiants-là, c'était à peu près combien de temps?
C'est un semestre ou une année complète.
Ah, c'est quand même long, alors.
On recommande quand même la mobilité d'une année universitaire, parce qu'un semestre, c'est un peu court. Mm-hmm. Il y a différentes période dans la mobilité et il y a la période compliquée quand on arrive où il faut régler tous les problèmes, il y a la période un petit peu compliquée où on se rend compte qu'on est loin de ses parents et après il y a la période euphorique qui commence et quand c'est le premier semestre ça correspond à la fin de la mobilité et la plupart des étudiants auraient eu envie de continuer. On voit par exemple que des étudiants qui sont accueillis chez nous en Erasmus pour un semestre demandent à rester une année parce que voilà, ils sentent que c'est le bon moment pour continuer en fait.
Après, au niveau des échanges, je suppose qu'Erasmus sont aussi des échanges entre des universités et d'autres, non? Ou bien c'est indépendant, on peut aller où on veut, accueillir le nombre de personnes qu'on veut,
hein? En fait, Erasmus est très bien organisé, on négocie des accords avec des universités par discipline, avec un nombre de places. Donc tout ça, c'est bien organisé. D'accord. Mais on a beaucoup d'accords à Lille, donc et on n'est pas obligé de les activer tous les ans. Donc,
Et est-ce que vous avez, vous, des difficultés à mettre certains étudiants qui voudraient aller dans tel ou tel pays, ou bien en gros, ça fonctionne?
Il y a un peu de concurrence sur les pays très prisés, comme les pays scandinaves et le Royaume-Uni, qui souhaitent pas forcément développer Erasmus, et avec le Brexit, on se pose des questions. Donc effectivement, il y a des places pour lesquelles il faut faire une sélection qui est faite sur le dossier académique et la maturité aussi des étudiants.
Et dans l'autre sens, l'accueil à l'Université de Lille, est-ce que pour les étudiants qui viennent de l'étranger, ils arrivent à trouver?
Nous, on accueille tous les étudiants qui candidatent dès lors que leur niveau de français est suffisant pour suivre les cours et on a assez de places. Ensuite, on a une souplesse aussi pour renégocier les accords en cours s'il le faut pour accueillir un étudiant. On ne va pas être flexible et dire non, il n'y a que deux places et c'est pas trois, on va quand même être très flexible. Enfin, le but, c'est d'encourager la mobilité, c'est pas de la freiner, en fait.
Alors, sur Radio Campus, on a des intervenants qui interviennent de leur pays où ils sont étudiants Erasmus dans la matinale de l'Académie UAJ, tous les matins à partir de 7h, à partir là du 23. Ça reprend les émissions hein, entre 7h et 8h. Et donc, c'est l'occasion pour eux aussi de partager leur vision du monde au travers de la radio et ils informent les auditeurs sur telle thématique, comment ça se passe là-bas. C'est un bel échange. Enfin, je veux dire qu'on est très heureux aussi d'accueillir ces paroles venant de l'étranger de la part d'étudiants français. Ils sont inscrits à Lille 1, Lille 2, Lille 3. Et voilà, ils ont ces témoignages qui vont revenir très vite sur Radio Campus à partir du lundi 23 et tous les jours de la semaine entre 7h et 8h, voire 8h et 9h parfois, jusqu'au samedi inclus. Donc, dans quelques instants, on va parler des étudiants présents, Simon, Pierre et Antoine, et de leurs expériences personnelles. Vous êtes sur Campus 106.6 FM. Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM, www.campuslille.com si vous êtes partout ailleurs dans le monde, ailleurs que cette région Hauts-de-France. Donc, nous l'avons dit, hein, nous sommes dans le cadre d'une présentation de devenir acteur du monde, zoom sur les relations internationales, dans ce magazine Campus Lille Info, et avec trois étudiants qui ont cette expérience qu'ils vont relater aujourd'hui. Et tout d'abord, Pierre. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Donc toi, tu es parti où ?
Alors moi, je suis parti en Espagne il y a 2 ans.
Et dans le cadre au départ d'une formation ici, en quel domaine ?
Alors moi, c'était pas avec l'université de Lille, hein, c'était avec l'université de Tours. Mm-hmm. Vu que j'habitais là-bas, je suis parti en Espagne grâce au programme Erasmus. Donc c'était durant ma 3e année de licence. Puis donc j'ai validé ma 3e année de licence et mon diplôme là-bas. Puis ensuite je suis arrivé à Lille.
Donc une licence de quoi ?
Une licence d'économie.
Économie.
Oui.
Et là-bas, ce qui t'intéressait, c'était de découvrir l'économie ou le monde ?
Plutôt, disons que j'y suis allé avant tout pour moi-même, au niveau personnel. Disons qu'après les cours, par rapport aux cours, c'était plus ou moins similaire en Espagne qu'en France. Mais sinon, j'y suis plutôt allé d'un avis plutôt personnel que pour les cours, oui.
Et l'Espagne, on a entendu parler de ses difficultés économiques et des évolutions aussi depuis 5-6 ans, là. Peut-être qu'il est un peu tôt pour en faire un bilan, mais comment tu vois les choses là-bas ? Est-ce que l'économie enseigne aussi à améliorer les choses dans ce pays ?
Alors, disons que je suis parti dans la partie d'Espagne qui est la plus pauvre, c'est l'Andalousie. C'est la partie où il y a plus de 50% de chômage chez les jeunes. Bon, c'est assez énorme, mais disons que je l'ai pas vu, moi, directement à Séville. C'était une année incroyable pour moi, peut-être trop incroyable pour le voir.
Donc les cours là-bas, tu les prenais en espagnol ?
Totalement, 100% espagnol.
Tu avais une bonne formation avant ?
J'avais quelques notions en espagnol, notamment par rapport aux cours que j'avais suivis durant le collège, lycée. Je suis parti aussi une fois en Colombie avant, mais je parlais plutôt anglais qu'espagnol et j'avais vraiment envie d'apprendre l'espagnol. C'était une langue qui m'intéressait beaucoup et finalement, je suis ressorti avec un niveau C1. Au cours de mon année.
Donc ça aide vraiment à se mettre dans le bain et à apprendre.
Au niveau de la langue, c'est la meilleure chose qui puisse arriver. C'est-à-dire qu'on est plongé dans le bain totalement dans un pays. Alors moi, j'ai très très peu parlé anglais. Il y a beaucoup d'étudiants internationaux c'est un peu plus compliqué pour eux de parler la langue locale s'ils la connaissent pas trop au départ, donc ils se retournent plus vers l'anglais. Moi, j'ai vraiment voulu parler espagnol là-bas, et c'est ce que j'ai fait, donc c'était 100% espagnol pour moi.
Est-ce que tu conseillerais d'avoir un colloque espagnol si on est en Espagne ?
Ah oui, complètement, oui. Moi, j'étais dans une colocation, donc on était 7, il y avait des Italiens, Allemands, il y avait donc 2 Espagnols et une Hollandaise. Donc c'était riche de culture, riche de langage, riche de...
Alors il y a un film un peu autour de ça, Erasmus, je sais pas si tu l'as
vu. C'était l'auberge espagnole.
Oui.
C'était un peu ça,
oui.
C'était un peu ça, exactement.
Bon, ambiance alors ?
Très bonne ambiance, une culture incroyable en Espagne, en Andalousie. J'ai appris des choses sur moi-même, sur la culture locale, sur la culture européenne que je n'avais jamais eu, j'avais jamais vu avant. C'était une expérience inoubliable pour moi, que je referais directement si j'en avais l'opportunité. Là, j'en ai l'opportunité, mais malheureusement, mes études se terminent.
D'accord. Donc là, une expérience d'un an, on va dire ça ?
Non, un an complet, oui, donc 10 mois exactement.
Et le retour, ça se passe comment ?
Le retour est très 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 compliqué, c'est-à-dire que j'avais un problème identitaire réellement quand je suis rentré. Il y a des moments où je voulais être espagnol, je voulais même plus être français. C'est très 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 dur de quitter. Disons que j'avais ma vie là-bas, je m'étais créé mon environnement, j'ai eu le temps d'avoir de nouveaux amis, d'avoir de nouvelles connaissances, la culture, je me suis beaucoup attaché. Donc pour moi, c'était très compliqué de revenir en France.
Bon, toi, tu étais dans cette prédisposition, on va dire. Est-ce qu'il faut avoir déjà au départ une capacité à s'adapter, à vivre très différemment les choses ? Toi, tu es presque... Voilà, tu es dans le mimétisme, là, quasiment.
Alors, évidemment, y a une condition pour partir en mobilité, c'est être ouvert d'esprit. C'est-à-dire qu'on peut pas aller dans un pays, découvrir une autre culture, de nouvelles personnes, de tous les horizons possibles et imaginables, si on n'est pas ouvert d'esprit et qu'on est refermé trop sur soi-même. Mais après, cette expérience permet aussi de s'ouvrir l'esprit. Donc, n'importe qui peut y aller, absolument.
Merci Pierre.
Merci.
Dans quelques instants, on va retrouver Antoine. Vous êtes sur Campus 106.6 FM, l'émission Campus Lille Info, comme chaque mercredi entre 16h et 16h30. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Alors Antoine, on se retrouve donc pour cette deuxième présentation d'expérience. Donc là, c'est pas en Espagne.
Non, tout à fait. Je suis parti aux États-Unis.
États-Unis, c'est plus loin.
Un peu plus.
Et c'est donc, plus cher.
En effet. Le voyage est un peu plus cher, malentendu. Mais après, sur place, c'est une vie, on va dire, à peu près normale, hein, comparativement à une vie française aussi.
Donc au départ, Antoine, American Dream, ça t'avait fait rêver aussi?
Tout à fait. Donc moi, personnellement, c'est vrai que même avant d'arriver à l'université, j'avais cette envie de partir aux États-Unis. Mmh. Et j'avoue aussi que le choix de l'université avait des partenariats potentiels, en fait, des universités, m'avait un petit peu aussi orienté vers une université.
Donc au départ, ta formation ici?
Alors, c'est un peu compliqué parce qu'en fait... disons qu'en fait j'étais aussi dans une autre université hein, comme Pierre, donc j'étais à Valenciennes, donc dans l'audiovisuel. Mmh. Mais au final, après une mobilité, mon parcours a fait que je me suis plus orienté vers un parcours, on va dire, international.
D'accord. Est-ce que le fait d'être à l'étranger, de comprendre, de s'adapter, etc., ça peut éventuellement donner l'envie de changer de cap dans une formation?
Ah, tout à fait, j'en suis l'exemple même. Donc même si on a, bien entendu, on a des objectifs personnels dans une formation, après on peut, après une mobilité notamment, de redécouvrir une passion, j'appelle ça une passion du coup, le travail que je fais maintenant, enfin, en tout cas la formation.
Alors, Pierre m'a beaucoup impressionné dans son expérience de colocation, avec une vraie ambiance, de vrais échanges entre les personnes étudiantes de différents pays. Hein. Est-ce que toi, aux États-Unis, tu as ressenti un peu la même chose? Tes conditions étaient lesquelles?
Tout à fait, donc une colocation aussi, avec deux Américains et un Anglais. Donc ça, en plus, l'avantage, c'est qu'on a été accompagné aussi par les relations internationales là-bas sur place, ce qui est un peu la même chose au final ici à Lille. Mais donc quand on est guidé, voilà, on a vraiment été amené à rencontrer des personnes facilement, donc ça facilite aussi l'intégration dans une nouvelle université, dans un nouveau pays. Et cette multiculturalité aussi avec des colocataires ou des personnes qui suivent les mêmes cours que nous, la rencontre en tout cas se fait très facilement.
Entre l'idée, l'image, on va dire, de ce pays avant d'une part, une fois qu'on est là-bas, ce qu'on y découvre, est-ce que ça a changé beaucoup de choses ou bien est-ce que c'est en gros ce qu'on raconte et ce qu'on voit dans les médias?
C'est vrai que quand je suis revenu, j'avais un petit peu la phrase bateau que je racontais à tout le monde. Je disais à tout le monde, vous voyez ce que vous avez vu dans les films. Et donc j'attendais donc qu'ils répondent, ah oui, c'était pas pareil. Et en fait, je leur ai dit, bah si, c'est exactement ça, c'est même encore mieux. Et donc quand on est sur place, la réalité des choses est d'autant plus, quand on la vit, on est encore plus surpris. En fait, on s'y attend peut-être un petit peu, on peut être déçu du coup en ayant des attentes, mais au final, dans mon cas, ça a été exactement ce que j'attendais, voire mieux.
Bon, on demandera peut-être tout à l'heure, notamment à Simon, hein, si ta vision optimiste ou positive de ton expérience est également presque universelle une fois qu'on va dans un pays où on découvre non seulement ce qu'on a vu au travers des films, mais davantage et mieux. Voilà, c'est peut-être pour toi ton point de vue. Est-ce que, je sais pas, tu es parti à quel moment là-bas?
Alors en troisième année, puisque les échanges étaient hors Europe, étaient donc à partir de la troisième année. Mmh. Simplement, en fait, c'était une condition pour les relations internationales de faire partir des étudiants hors Europe, un peu plus âgés, donc un peu plus matures, donc à partir de la troisième année au moins de licence.
D'accord. Et c'était l'année il y a 2 ans, 3 ans, plus?
Il y a 2 ans.
et 2 ans. Donc effectivement, bon, d'une année sur l'autre, en général, aux États-Unis, ça ne change pas, sauf cette année, peut-être qu'il y aura du changement. Mais ça, on demandera au futur Erasmus, avec J'y trompe, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir dans ce pays. On verra, on va découvrir. Donc, cette expérience-là, une fois qu'on revient, est-ce qu'on la partage et avec qui?
Alors, on la partage bien entendu et c'est vrai qu'on va peut-être en parler, mais le retour étant, on va dire, peut-être pas difficile, mais on veut essayer justement d'aider les étudiants après qui vont arriver à Lille, notamment. Et donc, pour certains étudiants, donc on se rapproche d'associations internationales qui peuvent justement aider à l'intégration. On va citer peut-être ESN ici, donc Erasmus Student Network, qui est une association donc sur les différents campus de l'Université de Lille. Et donc, en effet, bah, cet engagement aussi permet de mieux se réintégrer, je pense, dans une vie universitaire française, après une expérience donc vraiment inoubliable. Et voilà, donc on s'investit, je pense, à l'arrivée, au retour du pays.
Ouais. Merci Antoine pour ce témoignage. Simon va se rapprocher du micro pour exprimer aussi son expérience dans quelques instants. Au sein de Radio Campus, dans le studio, il y a de la mobilité puisque Simon a pris la place d'Antoine qui avait été même, voilà, ça bouge, on fait tourner les chaises, les micros, les tables, voilà. Donc, Simon, bonjour tout d'abord.
Bonjour.
Donc, toi, ton expérience, t'es venue à partir d'une envie forte ou bien on t'a motivé ici dans cette université?
Donc, j'étais parti en Allemagne dans une petite ville qui s'appelait Rosenheim, au sud de Munich, à une demi-heure de Munich. Et j'ai eu beaucoup... En fait, j'étais parti de Lille 1 en économie et la présentation de notre responsable mobilité en économie m'a beaucoup beaucoup motivé de décider à partir dès la deuxième année. Mais j'avais déjà l'ambition de partir un an en Allemagne, mais pas forcément aussitôt, parce que je connaissais déjà le pays, j'étais déjà venu plusieurs fois avant ma mobilité à Munich notamment. Mais comme l'université de Lille 1 avait aucun partenariat avec Munich, je me suis rabattu sur la ville de Rosenheim à côté de Munich. Et au final, c'était très bien.
Bon, il y a peut-être moins de bière alors?
Oh, il y en a d'autant plus. Il y en a d'autant plus parce qu'il y a des fêtes de la bière dans les petits villages, c'est tout le temps, encore c'est plus simple. Qu'à Munich.
Voilà. Donc voilà, consommer avec modération, bien sûr. Donc quand on vit une vie d'étudiant là-bas, bon, c'est facile aussi avec les Allemands, je présume.
Ah, c'est pas forcément évident. Pour la plupart, j'ai eu beaucoup de retours d'étudiants qui sont partis notamment en Erasmus de France, ou même les étudiants Erasmus sur place à Rosenheim. On n'était pas beaucoup, certes, mais ils avaient plus de mal avec les Allemands qui étaient plus entre eux. Mais moi, je l'ai vécu tout différemment parce que je parlais déjà allemand avant d'arriver. Et le premier semestre où je suis arrivé en Allemagne, il s'est créé des petits groupes d'Erasmus, mmh, où je parlais pas forcément la langue, c'est-à-dire des groupes d'Espagnols, de Finlandais ou de Slovaques et Polonais, où je parlais pas du tout la langue, donc ce fut bien plus compliqué pour moi. D'accord. Pour m'intégrer au sein des Erasmus. Donc, tout naturellement, je me suis plus rapproché des Allemands comme je parlais déjà la langue et je connaissais déjà la culture avant d'arriver.
Voilà, donc on va dire que si on veut aller en Allemagne en Erasmus, il vaut mieux quand même connaître l'allemand.
Ça peut être plus utile si on veut évidemment être plus avec les Allemands. Après, il y a deux façons de vivre son Erasmus évidemment. Ou les Erasmus, eux, qui étaient à Rosenheim, eux ont voyagé à travers toute l'Allemagne, sont partis en Italie, sont partis en France même, ou même en Espagne à partir de l'Allemagne. Ou moi, j'étais resté plus en Allemagne, où je suis resté avec les Allemands, mes amis allemands, où je suis parti par contre un peu en Autriche, mais ça reste dans l'esprit allemand. et j'ai beaucoup fait la fête avec eux.
Donc, qu'est-ce que tu as découvert en Allemagne qu'il n'y a pas en France, peut-être au niveau des études ou un environnement différent?
Au niveau des études, c'était... J'ai découvert des matières qui n'existaient pas forcément en licence ici à Lille 1, comme le Lean Management, qui était une matière vraiment intéressante qui est découverte en France plutôt fin master.
Ça consiste en quoi ?
Le Lean Management, c'est le fait de créer une entreprise ou une production sans déchets, sans problème durant la production.
C'est vrai que les Allemands sont sensibles à l'écologie, tu l'as ressenti ?
Très très sensible, surtout quand on voyage à travers l'Allemagne, on voit des panneaux solaires partout, 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 sur les trois quarts des toits, il y en a, l'Allemagne reste et sera reste le premier producteur d'énergie solaire au monde.
Et un peu moins de centrales atomiques.
Oui, vu qu'il n'y en a plus.
On a bien compris. Donc ça, ces problèmes environnementaux, est-ce que tu ressens chez les jeunes hein, aussi, j'allais dire presque maintenant dans leur formation, dans le milieu familial, cette sensibilisation et aussi ce besoin d'agir pour la planète?
Oui, oui. Bah, il y a de plus en plus de personnes végétariennes, voire véganes, plus qu'en France.
D'accord. C'est un mouvement qui arrive hein, dans nos universités.
Ça arrive
aussi,
au fur et à mesure, mais en Allemagne, ça existe depuis bien 20 ans.
D'accord. Donc, toi, tu as découvert un environnement d'études avec des matières différentes, un peu, hein, comme tu l'as dit. Est-ce que ces matières-là, elles te servent aussi éventuellement ici en France, soit dans tes études, soit éventuellement dans tes projets de professionnalisation?
Aujourd'hui, depuis que je suis rentré d'Allemagne, en fait, j'ai beaucoup étudié l'économie, même avant, durant le bac, bah, j'ai décidé tout d'un coup de changer d'études et aujourd'hui, je suis en hôtellerie. D'accord. Donc, c'est complètement différent et je réutilise un peu le management au niveau du management, notamment en hôtellerie, notamment en cuisine.
Est-ce qu'il y a un avenir pour la cuisine verte?
Pour la cuisine verte, j'avais pensé surtout en fait à Rosenheim de créer un restaurant français qui n'existe pas à Rosenheim. Comme Rosenheim est une ville, on peut dire riche, à 0% de chômage, ah ouais. Où là les restaurants sont pleins, mais pleins tous les week-ends, dur de trouver une table au week-end si on n'a pas révisé, si on n'a pas fait une réservation une semaine à l'avance. Donc un restaurant, et ils aiment bien la bonne cuisine, ils aiment beaucoup la bonne cuisine. Je pense que la restauration française a un avenir là-bas.
Bon, donc si tu veux créer peut-être hein, par la suite une entreprise, tu envisages de le faire avec des partenaires, je veux dire des associés qui seraient plutôt français ou plutôt allemands?
Plutôt français. Après évidemment. Et ça serait plutôt français au niveau de la cuisine, évidemment, mais aussi au niveau du management et du service, ça serait plutôt allemand. Ça serait vraiment mixte, parce qu'au départ, je veux quand même créer un resto français.
D'accord. Est-ce que tu penses les choses plus faciles à installer là-bas en termes d'entreprise hein, qu'en France?
Au niveau de la... Non, je pense que c'est quasiment pareil. Voire plus cher en Allemagne parce que l'immobilier, notamment en Bavière, est plus cher qu'en France.
Mais si tu le dis après que les restaurants sont toujours pleins et que tu travailles là-dedans, ça peut être bon en amortissement.
Ça peut être rentable, oui. Ça m'étonnerait que ça soit vide le week-end.
Très bien. Donc voilà un projet, on va dire, professionnel. Projet humain, personne ne veut intervenir. Carte blanche, joker ou bien... Non. Relationnellement, on nourrit des contacts fructueux relationnellement ou pas?
Je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai rencontré ma copine en France, ouais. Qui est justement de la ville où j'étais en Erasmus. Voilà. Et depuis, je reviens chaque année dans la petite ville où j'étais.
Voilà, ma question, je la sentais bien.
Ouais, voilà.
Donc voilà, c'est vraiment un échange aussi humain et qui peut, pourquoi pas, orienter une vie.
Oui, clairement.
Ben, merci pour tous ces témoignages. Est-ce que quelqu'un voudrait conclure pour donner un conseil, par exemple, aux étudiants qui auraient envie ou pas encore envie d'aller en études Erasmus? Alors peut-être qu'on peut donner la parole à Pierre, hein, pourquoi pas Pierre.
Non, juste un petit conseil, sautez le pas en fait, allez-y directement, c'est vraiment la meilleure expérience que vous pouvez vivre si vous voulez partir. Faites attention au retour, évidemment, ça va être un petit peu compliqué, mais vous allez avoir des contacts après, partout dans le monde, vous allez être enrichi personnellement, et puis si c'est un peu trop compliqué sur le retour, il y a toujours, comme tu l'as dit Antoine, il y a toujours des associations telles que ESN pour justement vivre un petit peu, continuer cette expérience internationale.
Bien, merci Pierre, merci Antoine, merci Simon et bien sûr merci Véronique Level. Des précisions sur le site de l'université, vous tapez Erasmus, ou voilà, vous allez forcément tomber sur les relations internationales et éventuellement les conditions pour accéder à ces merveilleux échanges et qu'on vous propose aussi d'écouter sur Radio Campus dans les interventions qui sont faites par nos étudiants de l'Académie ESJ. Merci à tous, très bonne journée, vous êtes sur Campus 106.6 FM.